une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Adrien Schwitter, rédacteur en chef adjoint pour le magazine Challenge. Salut Adrien.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, on va parler de James Franco, d'économie informelle, et de ce qu'il reste de la grande Union soviétique.
Nous sommes au 21e siècle depuis une vingtaine d'années désormais. Cela fait plus de 30 ans que la chute de l'URSS s'est produite. Et pourtant, il y a un pays qui continue encore et toujours de s'opposer frontalement aux États-Unis. Un pays qui menace souvent de représailles atomiques ses opposants. Un pays qui vit quasi en autarcie avec un leader jovial qui pose régulièrement la mèche bien mise à côté de missiles. Vous avez deviné ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Corée du Nord.
Cet épisode n'est pas sponsorisé par l'État nord-coréen, je tiens à le préciser pour nos auditeurs et auditrices.
Non, car à Splash, nous acceptons les paiements en euros et non en won nord-coréen pour l'instant. Pourquoi nous intéresser à ce petit pays de 25 millions d'habitants aujourd'hui ? Nous avons eu envie d'aller au-delà des clichés qui circulent. Le pays serait totalement coupé du monde, vivrait en autosuffisance, tout en apparaissant parfois dans l'actualité internationale à l'occasion d'un test de nouveaux missiles en mer du Japon, ou lorsque Kim Jong-un et Donald Trump se rencontrent pour une photo il y a quelques années, ou encore quand le dictateur nord-coréen rencontre Vladimir Poutine à l'occasion d'un contrat de fourniture d'armes à deux pas du fleuve Amour. Si on se contente de la regarder de loin, la Corée du Nord peut être vue comme un état ermite et belliqueux, refusant tout contact avec l'extérieur. En réalité, ce n'était pendant longtemps pas le cas. En 2015, par exemple, le pays entretenait des relations commerciales avec une centaine de nations. Certes, pour des montants relativement modestes. La France avait échangé cette année-là 7,5 millions d'euros de biens et services entre les imports et exports au cours de l'année avec Pyongyang. Concrètement, nous avions acheté surtout des outils industriels basiques. En 2017, la somme était de 12,8 millions d'euros. Depuis, les sommes sont quasi nulles, selon la diplomatie française, à cause des sanctions internationales.
Pour un pays qui se réclame encore de Marx et de Lénine, le récent rapprochement avec la Russie de Poutine était inévitable, non ?
On pourrait le penser, effectivement, Emmanuel. Sur le papier, la Corée du Nord demeure, depuis 1945 et encore plus depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, un état résolument communiste. Le modèle de la Corée du Nord est la continuation de celui de Mao Zedong pour la Chine dans les années 70. Un pays fonctionnant en indépendance qui rejette le capitalisme et l'ouverture aux capitaux étrangers. Pyongyang est peut-être aujourd'hui le pays le plus communiste sur le papier à la surface du globe. Plus que le Laos, Cuba, le Vietnam ou même la Chine. Alors même que l'ONU considère les hackers nord-coréens comme les principaux responsables des vols de crypto-monnaies dans le monde, on peut se demander si... La Corée du Nord est-elle devenue une URSS cyberpunk ? Pour être franc, nous avons contacté un grand nombre de spécialistes du sujet qui nous ont souvent répondu « Très bonne question, mais je ne peux y répondre ». Et pour cause, le pays est fermé très largement depuis des dizaines d'années. Impossible d'en sortir ou d'y entrer. Côté publication officielle des données économiques, les dernières remontent aux années 60. Il en résulte une très grande difficulté d'accès pour analyser des statistiques crédibles et impartiales. Les chiffres internationaux sur lesquels nous avons travaillé sont souvent issus de bases de données d'organisations internationales, Banque mondiale ou de la Banque centrale sud-coréenne, parfois de l'ONU ou de l'OCDE. On vous rassure, nous avons quand même réussi à joindre une pointure sur le sujet. Justin Hastings, professeur à l'université de Sydney en relations internationales et en politique comparée. Il connaît bien la Corée du Nord. L'universitaire lui a consacré des études et deux publications en 2010 et 2016. No Man's Land, la mondialisation, territoire et groupe clandestin en Asie du Sud-Est, ainsi que la Corée du Nord dans la mondialisation, un pays très entreprenant. Pour lui, la Corée du Nord serait une URSS qui se serait effondrée tout en continuant à fonctionner malgré tout.
North Korea and Soviet Union are not totally similar.
Vous savez, les Nord-Coréens et l'Union soviétique ne sont pas totalement similaires. Mais la Corée du Nord est, je pense, ce à quoi l'Union soviétique aurait pu ressembler si elle s'était effondrée, et qu'elle avait continué d'une manière ou d'une autre à fonctionner tout en ayant vendu toutes ses ressources, tous les actifs qui avaient été accumulés pendant la période communiste, et si les gens avaient trouvé un moyen de survivre. C'est vrai. Vous savez, si je devais résumer ce qu'est la Corée du Nord, en particulier depuis la fin de la guerre froide, ce serait un témoignage du triomphe de l'esprit humain au sein du peuple nord-coréen, en dépit du gouvernement. Et cette créativité, cette flexibilité, cet esprit d'entreprise dont la population nord-coréenne a fait preuve, je pense que c'est ce que l'on verrait dans de nombreux pays s'ils étaient placés dans la position de la Corée du Nord.
C'est un peu énigmatique pour l'instant, on vous l'accorde. Pour comprendre comment cet expert de la question en est arrivé là, il faut rentrer dans le dur. comprendre ce qu'était à grands traits l'économie de l'Union soviétique et donc voir si la Corée du Nord peut être comparable. Pour ça, nous nous référons au travail de Julien Vercueil qui a publié « L'économie politique de la Russie, 1918-2018 » aux éditions Point. Le régime soviétique, outre l'impossibilité toute théorique de jouir de la propriété privée, utilisait en grande partie une économie centralisée et planifiée. Pour l'année et parfois pour une décennie, les priorités de production étaient décidées par l'État. Le but était donc de remplir les quotas et objectifs imposés. Sauf que, très rapidement, s'est développée à côté de cela une économie informelle dans une zone grise.
Si vous pensez à la situation de l'Union soviétique dans les années 70 et 80, elle se trouvait essentiellement dans une période de stagnation. L'économie soviétique avait pris beaucoup de retard par rapport aux autres États. Les soviétiques ont continué à fabriquer des produits, et en fait, ils ont continué à fabriquer des choses. Vous savez, de grandes quantités de produits, de relativement faible qualité pendant longtemps, même jusqu'à ce que l'Union soviétique s'effondre. Mais les inefficacités introduites par le système ont entraîné l'apparition d'une seconde économie, surtout en Union soviétique, mais aussi dans toute l'Europe de l'Est. Cette seconde économie était celle qui fournissait aux gens les choses dont ils avaient besoin. Parce qu'une économie planifiée est fondamentalement incapable de fournir aux gens les choses dont ils ont besoin pour survivre.
En Corée du Nord, la situation est aujourd'hui comparable, avec une économie informelle qui a même remplacé en très grande partie l'économie officielle. Le point de départ de ce tournant a été la grande famine des années 90 à la chute de l'Union soviétique. Elle aurait provoqué la mort de 220 000 à 3 millions de personnes suivant les estimations. De nombreux marchés informels se sont développés depuis une vingtaine d'années en Corée du Nord. Ils sont tolérés par le régime, même s'ils ne font pas partie de l'économie d'État. Signe de leur importance, 70% des Nord-Coréens y participent, contre seulement 50% dans l'économie d'État. Justin Hastings.
Et nous voyons une situation dans laquelle les Nord-Coréens essaient essentiellement de survivre, de trouver de la nourriture, ce qui n'est jamais vraiment un problème en Union soviétique. Mais en Corée du Nord, il n'y a pas de nourriture disponible. Comment obtenir de la nourriture ? En théorie, la nourriture était distribuée par le système public de distribution en Corée du Nord, qui s'est arrêté au début des années 90. Les gens ont donc dû trouver de la nourriture par d'autres moyens. Et ils l'ont fait en achetant et en échangeant des choses qu'ils avaient à la maison, en cultivant de la nourriture à côté et en créant une sorte d'économie de marché naissante pour survivre.
Avant la pandémie de coronavirus, 70% de la nourriture et des biens de consommation utilisés en Corée du Nord par la population provenaient de cette zone grise et de cette économie informelle. Concrètement, de nombreux business tolérés se sont développés alors même qu'ils sont interdits officiellement.
La Corée du Nord n'a officiellement pas de système fiscal parce que c'est un pays communiste. Mais vous savez, ils disent « Écoutez, nous n'avons pas de taxi, mais si vous en opérez un, nous attendons des bénéfices de votre entreprise. » On se moque donc de savoir comment vous gagnez de l'argent, mais vous devez en gagner et on en veut une partie. Ils donnent carte blanche à ces entreprises publiques pour qu'elles fassent preuve de créativité dans leur façon de gagner de l'argent.
Ainsi, l'économie informelle s'est bien développée à côté de l'activité officielle, au point de la supplanter. Plus même que dans les années 70 et 80 pour l'URSS. Un plan pour le développement économique sur les 10 prochaines années a par exemple été annoncé en 2011 par Pyongyang, même si celui-ci n'a pas été suivi d'effet.
Un peu comme l'URSS avec sa perestroïka à la fin des années 80 pour se rapprocher d'un socialisme de marché.
Tout à fait, Emmanuel. La Corée du Nord a tenté à de multiples reprises d'ouvrir son économie. Une loi de 84 a ouvert la voie aux investissements étrangers. Puis, en 90, la première zone économique spéciale est mise en place avec la Chine afin de créer un endroit où une société étrangère peut travailler avec ses homologues nord-coréennes. S'ensuit en 98 la Sunshine Policy, une période de détente avec la Corée du Sud. Cela a permis la création en 2000 de deux zones franches entre le nord et le sud, Kaesong, ouvert en 2004, et Kumgang. Même si toutes ces zones économiques ont fermé depuis les sanctions internationales de 2016, l'idée d'amélioration des conditions de vie de la population nord-coréenne semble être prise en compte par le pouvoir.
Il y a une sorte de contrat social implicite en Corée du Nord entre le gouvernement et au moins les élites, et peut-être même la population en général, selon la façon dont on l'envisage, qui dit que la Corée du Nord vise maintenant la prospérité économique, mais vous savez, l'époque où l'armée avait tout et la population rien est révolue. Précisément parce que c'est ce que Kim Jong-un doit faire pour maintenir sa popularité et le contrôle social qu'il exerce. Il doit donner à la population une certaine dose d'optimisme quant à sa vie économique future.
À côté de cela, le pays vit avec un culte du chef et du parti, qui peut rappeler l'époque soviétique.
Kim Il-sung, en tant que fondateur du pays, a manifestement pris le temps de développer son culte de la personnalité qui a été couronné de succès. Kim Jong-il a développé son culte de la personnalité plusieurs années avant la mort de Kim Il-sung, en partie parce qu'il savait qu'il prendrait la relève et que Kim Il-sung a été malade pendant plusieurs années avant de mourir. Kim Jong-un n'a pas eu cette opportunité. Kim Jong-il a eu une attaque en 2008. Il savait alors qu'il devait avoir un successeur. C'est ainsi que le culte de la personnalité de Kim Jong-un a été précipité. Ce que cela signifie, c'est que Kim Jong-un fait fait pour maintenir ce culte de la personnalité est différent de ce que son père et son grand-père ont fait. Il doit donner l'impression d'une image publique plus joviale.
Mais Kim Jong-un, il est lui-même devenu un véritable mème en Occident, non ?
Oui, de nombreux mèmes ont fleuri sur les internets. Kim Jong-un souriant avec des militaires au lancement d'un missile, Kim Jong-un inspectant les bonnes récoltes agricoles, Kim Jong-un posant avec des infirmières. La liste est quasiment infinie de ces images de propagande. On vous conseille alors certains livres qui regroupent les meilleures photos de propagande. Un indispensable à placer sous le sapin. Depuis 2010, date à laquelle il a succédé à son père, le leader nord-coréen a multiplié les pics, déclarations et tentatives de rapprochement sous l'ère Trump avec les États-Unis. Le pays est l'ennemi juré de la Corée du Nord car il soutient l'ennemi sud-coréen. Un point commun avec l'URSS, même si cet antagonisme n'est pas forcément une réalité dans la vie quotidienne du pays. Justin Hastings.
L'économie nord-coréenne est organisée de telle sorte que, vous savez, n'importe quelle partie de la Corée du Nord devrait être capable de subvenir à ses besoins et de se défendre contre une invasion. Vous savez, des États-Unis, de la Corée du Sud ou de n'importe qui d'autre. Mais en ce qui concerne les tâches quotidiennes, ce qui se passe réellement sur le terrain, une grande partie de la Corée du Nord est conçue pour, essentiellement, des corps de travailleurs pour accomplir des tâches qui ne semblent pas nécessairement liées à la défense du pays contre les États-Unis, comme la construction de routes, par exemple, ou le creusement de canaux, ou la plantation de cultures.
Alors que la Corée du Nord demeure persuadée du risque existentiel que le pays court face aux États-Unis et à la Corée du Sud, Pyongyang a multiplié les tests atomiques pour développer une stratégie de dissuasion efficace, au point de maîtriser la technologie atomique, si bien qu'il subit de nombreuses sanctions internationales depuis 2016 et 2017. L'économie avait connu une période de croissance stable entre 1999 et 2016 à un rythme moyen de 1,4%. Le record avait été atteint au moment des essais atomiques de 2016 avec 4% de croissance grâce à de bonnes récoltes agraires. Depuis, l'économie a plongé entraînant une succession de récessions, 3,5% en 2017, 4,1% en 2018. Et seule l'année 2019 a connu une timide croissance de 0,9% avant de replonger suite au confinement strict décidé pour stopper la pandémie, moins 4,5% en 2020. La multiplication des sanctions internationales et le repli sur soi total du pays durant la période de pandémie mondiale en 2020 ont stoppé tout échange. Le pays est plus que jamais dépendant de ses relations commerciales avec son voisin chinois. En 2023, Pyongyang a recommencé ses échanges avec l'étranger. D'après les douanes chinoises, les échanges entre la Corée du Nord et la Chine ont représenté au premier semestre 637 millions d'euros, proche de leur niveau d'avant la pandémie et la fermeture totale des frontières. La Chine compte aujourd'hui pour 90% des échanges nord-coréens. Et pour se financer, Pyongyang est régulièrement accusé de vendre des armes à des pays sous sanctions internationales. Bien sûr, il y a la Russie, pour laquelle le pays aurait livré plus de 1000 conteneurs de munitions cet automne, selon les États-Unis.
Mais ça date pas d'hier, non ?
Tout à fait. En 2009, le Wall Street Journal estimait que le trafic des missiles de courte et moyenne portée rapportait annuellement au pays 1,5 milliard de dollars. En mai 2012, des cylindres de graphite ont été saisis en Corée du Sud à bord d'un navire chinois à destination de la Syrie. À côté des ventes d'armes, le pays est régulièrement accusé de produire de la fausse monnaie, par exemple des billets de 100 dollars, au point que le billet a été changé par la Banque centrale américaine. La Corée du Nord est également accusée depuis des décennies de pratiquer le commerce de cigarettes de contrebande. Si l'État nord-coréen ne brille pas par la vigueur de sa croissance économique, le pays a réussi à trouver une bonne alternative pour financer une partie de son économie, développer une armée de hackers d'élite pour voler de l'argent à l'étranger.
Comme dans le Bureau des légendes, par exemple, avec des espions infiltrés.
Probablement, Emmanuel. Même si on ne connaît que rarement le détail des modes opératoires. Si de nombreux pays disposent des capacités d'attaque, rares sont ceux qui les revendiquent, de peur des conséquences internationales. Surtout, peu d'entre eux les utilisent pour voler de l'argent. Nombreux sont ceux qui s'en servent pour perturber des pays ou obtenir des informations. Tout a vraiment commencé en 2014 pour les pirates nord-coréens.
Barack Obama face à Kim Jong-un, entre les Américains et les Coréens du Nord, un film satirique qui envenime des relations déjà houleuses. Cyberattaque contre le producteur du film, Sony, menace sur les cinémas qui oseraient le programmer. Pour les Américains, pas de doute, la Corée du Nord est bien à la manœuvre. Barack Obama promet une contre-attaque sans donner plus de détails.
Le pays a réussi à perturber la diffusion en salle d'un film satirique avec James Franco, imaginant un complot de la CIA afin de tuer le dictateur Kim Jong-un, dépeint comme un fan absolu de Katy Perry. Dans la propagande nord-coréenne, une citation de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, qui dirige le pays depuis 2011, résume la stratégie du pays. Si Internet est une arme, alors les cyberattaques sont une bombe atomique. Sauf que cela ne s'est pas arrêté là. En 2016, les hackers réussissent un raid sur la banque centrale du Bangladesh. Si le butin visé était de 951 millions de dollars, seulement 10% ont pu être dérobés avec succès. En 2017, le collectif Lazarus Group a mis sur pied le virus WannaCry, qui a infecté 200 000 ordinateurs. Ce collectif travaille régulièrement pour la Corée du Nord. 5 ans plus tard, c'est au tour de l'éditeur du jeu vidéo Axie Infinity de se faire dérober 620 millions de dollars par les hackers de Kim Jong-un. Le dispositif est si bien rodé que l'ONU estime en 2022 le butin volé par la Corée du Nord en crypto-monnaie sur l'année à 1,7 milliard d'euros, soit la moitié des sommes détournées cette année-là. Un axe important de la stratégie de développement du pays pour Justin Hastings, loin de celle utilisée par l'URSS.
Ils peuvent voler des informations informations. Ils peuvent pirater des systèmes internationaux. Ils peuvent voler des bitcoins, ils peuvent se livrer à la cyberfraude. Tous ces systèmes sont gérés par une cohorte de personnes qui font très bien leur travail. Et vous savez, les gens qui ont Internet ont un Internet assez rapide. Je veux dire qu'une entreprise qui organisait un webinaire en Corée du Nord m'a dit qu'elle avait rétabli des connexions à Pyongyang. Et la latence, la vitesse de la connexion Internet était assez bonne. C'est vrai. Donc, au moins quelqu'un dispose d'une connexion Internet à haut débit à Pyongyang. Et les Nord-Coréens qui sont choisis ont évidemment la possibilité d'y accéder.
La situation en la matière est éminemment paradoxale. La Corée du Nord est devenue une des meilleures nations de hackers de la planète, avec une unité estimée à 7000 cyberattaquants, alors même que moins de 1% des 25 millions de Nord-Coréens ont accès à Internet. Toutes les sommes dérobées sont utilisées, selon les experts internationaux, pour financer le développement du programme d'armement du pays. Après deux échecs, Pyongyang vient de réussir le lancement d'un satellite espion ce mercredi 22 novembre.
Ce qui risque de ne pas forcément améliorer les sanctions visant le pays à l'étranger.
Clairement, ce n'est pas demain que les frontières du pays seront ouvertes et que les investissements étrangers encouragés. Si on résume, oui, l'économie de la Corée du Nord a quelques points communs avec l'URSS des années 70 et 80. Une économie sans propriété privée officiellement, très centralisée et planificatrice, qui voit se développer dans le même temps une économie informelle encore plus importante pour combler les manques de la population, notamment de nourriture. Contrairement à l'URSS qui avait tenté avec sa perestroïka de se rapprocher du socialisme de marché, la Corée du Nord n'a pas réussi son essai via sa Sunshine Policy et l'utilisation de ses nombreuses zones économiques spéciales pour accueillir des investissements étrangers. Enfin, le pays s'est spécialisé dans le piratage afin de voler quelques milliards de dollars à étrangers, notamment en crypto-monnaie, afin de financer son économie.
Kim Jong-un fait encore la une en ce moment alors que la Russie veut se rapprocher de Pyongyang.
Oui, le 20 novembre, Emmanuel Macron a exprimé au président chinois sa vive préoccupation sur la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. D'après la Corée du Sud, 1 million d'obus ont été fournis à la Russie pour sa guerre en Ukraine. En retour, la Corée du Nord aurait obtenu du savoir-faire en matière de technologie spatiale. Nul doute que la Corée du Nord continuera dans les prochains mois à être au centre du jeu d'alliances internationales.
Merci Adrien pour cet épisode qui donne envie de faire du tourisme, ou pas. Si vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain!
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Adrien Schuiter, prise de son, montage et mixage Adrien Mecaria à l'Aria Boutique Studio, réalisé par Adrien Mecaria et Mathilde Jeunin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jeunin avec l'aide de Lila Bordelais.